sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, à Créteil.
Max Deleval, bonjour.
Bonjour Laura, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet nouveau en sociologie, la sociologie politique. De nombreux modèles essaient d'expliquer les comportements politiques. Alors, qu'entend-on déjà par comportement politique ?
Ben, il s'agit de l'ensemble des activités par lesquelles les gouvernés tentent directement ou indirectement d'influencer les gouvernants. On en privilégiera trois. D'abord le vote, mot fort de la démocratie représentative, les comportements de retrait, comme l'abstention, et les comportements protestataires, court-circuitant la médiatisation des élus.
Alors, commençons par le vote.
On distingue trois écoles. Celle de Columbia, elle corrèle le comportement électoral avec les groupes d'appartenance, comme les groupes professionnels, confessionnels et résidentiels. Deuxièmement, celle de Michigan, qui met l'accent sur ses facteurs psychopolitiques et le poids de l'identification à un parti ou à un camp, la gauche et la droite, forgés dès le plus jeune âge. Enfin, le modèle du choix rationnel, qui insiste sur la dimension stratégique et instrumentale du vote.
Est-ce qu'on peut transposer ces modèles dans les comportements électoraux ?
Oui, en France, les deux premiers modèles mettent en évidence deux variables lourdes, la classe sociale et la religion. Les électeurs les plus pratiquants se montrent les plus conservateurs. Et c'est sur une base de classe que se sont construits les partis politiques européens. Les partis de gauche prenant en charge les revendications ouvrières et les partis de droite, celles des classes moyennes et supérieures. Mais, depuis le milieu des années 70, ce modèle sociologique semble perdre de son pouvoir explicatif.
Comment on peut interpréter ces changements ?
D'abord, l'influence globale de la religion décline. Le vote de classe aussi semble remis en cause. Les progrès de la scolarisation, la montée des valeurs post-matérialistes, en particulier autour de l'écologie, de la liberté, du mariage pour tous, de la reconnaissance des minorités, favoriseraient l'émancipation politique et l'émergence d'un nouvel électeur plus rationnel. Le vote sur enjeu l'emporterait sur le vote sur clivage à base religieuse ou socio-professionnelle. Par exemple, les enjeux de l'insécurité et de l'immigration détermineraient le vote pour l'extrême droite. Les ouvriers ne font plus confiance en la gauche pour les défendre et sont aspirés par le vote pour le Rassemblement national.
Est-ce que d'autres tendances apparaissent ?
Si la gauche décline chez les ouvriers et les employés, elle résiste mieux chez les professions dites intermédiaires, comme les techniciens, les enseignants, les travailleurs des services médicaux. Les catégories jeunes, citadines, instruites, détachées de la pratique religieuse, particulièrement sensibles aux valeurs post-matérialistes, sont restés plus fidèles à la gauche.
Mais j'imagine que des clivages existent.
Oui, le premier oppose les salariés aux travailleurs indépendants. Ces derniers sont moins enclins à voter pour une gauche qui leur paraît défendre les salariés contre les patrons et renforcer l'intervention de l'État dans la vie économique. Le second clivage oppose les salariés du secteur privé à ceux du secteur public. Ces derniers votent plus souvent à gauche, alors qu'elle recule chez les salariés du privé, plus réceptifs au discours lepéniste pour les ouvriers et les employés, ou à celui de la droite modérée pour les cadres et les ingénieurs. Nous approfondirons cette question dans une prochaine rubrique.
Entendu Max, à bientôt.
À bientôt.
Pour plus de chroniques éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, à Créteil.